Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole, car ta parole est une lumière, Seigneur, sur notre sentier. Elle nous éclaire jour après jour. Elle nous donne toute la connaissance, toute la sagesse dont nous avons besoin pour vivre une vie victorieuse dans ce monde qui a tant de difficultés. Seigneur, nous prions et je prie que cette parole nous enrichisse ce matin, nous éclaire, nous encourage à aller plus loin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, en l'occasion de la fête des mères, j'ai choisi un thème que nous allons découvrir qui s'appelle tout simplement « Faire le bien ». Qu'est-ce que c'est que faire le bien ? Choisir de faire le bien. Ok ? Et pour cela, j'ai choisi un texte dans Actes 10. Parce que vous voyez, Jésus ne faisait pas que enseigner, prêcher et guérir les malades. Jésus faisait le bien. Et vous voyez, en tant que mère, en tant que personne, nous avons besoin de choisir aussi, de faire le bien dans notre vie. Parce que vous voyez, faire le bien, cela va nous apporter beaucoup de satisfaction dans notre vie. Regardons, lisons dans Acte 10, verset 38. C'est Luc qui a écrit les Actes des apôtres et qui déclare, « Vous savez comment Dieu... » Ça, c'est pas Luc, c'est Pierre qui parle, là. Mince, je me trompe. Je vais prendre le texte, hein. Acte 10. Et donc Pierre est invité dans la maison de Corneille et il va déclarer des choses. Il va dire, « Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. » J'ai choisi une autre version. « Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien. » Et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et dans une autre traduction, Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La Bible déclare clairement que la maladie, eh bien, c'est quelque chose de mauvais. Hein. Dieu n'envoie jamais la maladie pour apprendre quelque chose aux gens. La maladie est un problème. Si nous croyons, vous savez, il y a une façon de croire qui dit que lorsque Dieu envoie des maladies, Dieu envoie des maladies et que ça va nous éduquer, nous apprendre quelque chose. Non, la maladie est une source de problème qui fait que lorsqu'on l'a, on veut toujours en sortir. On va chez le médecin, on veut être guéri parce qu'on ne supporte pas d'être malade. Vous êtes bien d'accord avec moi ? La maladie, c'est un problème. Jésus est venu et sur la croix, il a vaincu la racine de la maladie. C'est pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, nous avons droit à la guérison. Que ce soit par la médecine, que ce soit par la foi, ça n'a pas d'importance, mais vous n'avez pas à accepter la maladie parce que la maladie fait partie de la malédiction. Et le Seigneur parle clairement ici, au travers de Pierre, qu'il est dit que Jésus allait de lieu en lieu en parcourant le pays, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Jésus. De même que Dieu est avec vous. Alléluia. Et donc, nous allons voir ce matin l'importance de faire du bien dans notre vie, parce que nous avons le choix. Je vous ai parlé la semaine dernière que en Jésus-Christ, votre esprit a été rendu totalement neuf, nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons un esprit tout neuf. Et notre esprit est rempli de toute la connaissance de Dieu, de toute la sagesse de Dieu, de toutes les capacités de Dieu. Nous avons tout en nous. Mais vous voyez, le blocage, c'est au niveau de notre âme. Notre âme, c'est ce qui est notre conscient, n'est-ce pas ? C'est le lieu de nos émotions, de notre volonté, de notre imagination. C'est le lieu de nos sentiments. C'est notre âme. Donc, dans notre âme, il y a des blocages. Pourquoi ? Parce que notre pensée n'est pas en accord avec notre esprit. Et c'est la parole de Dieu qui va donner à notre âme la transformation dont nous avons besoin, afin que toute la puissance que nous avons reçue dans notre esprit puisse être communiquée à notre âme, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, au niveau de notre conscient, de tout ce qui est conscient. Nous ne sommes pas conscients de notre esprit, mais la Bible nous dit que nous croyons que nous avons reçu. Quand nous naissons de nouveau, c'est notre foi qui est en action. Nous ne ressentons rien, mais nous savons que nous sommes nés de nouveau. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu le déclare. Et lorsque nous et la parole nous faisons qu'un, le miracle se produit en nous. Parce que la parole est esprit et vie. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Lorsque vous êtes en accord dans votre foi, dans votre conscience, avec la parole de Dieu, il se passe un miracle. Et l'opération du Saint-Esprit, on peut dire l'action du Saint-Esprit se fait en vous. C'est la nouvelle naissance. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Nicodème. Nicodème, Nicodème, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème était pourtant un docteur de la parole de Dieu, un docteur de la loi. Il connaissait très bien la parole, mais il ne connaissait pas cette expérience surnaturelle qui s'appelle la nouvelle naissance ou la conversion à Jésus-Christ. C'est une nouvelle naissance. Hein ? Nous avons lu l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 14, qui nous dit que nous ne sommes pas nés du sang ni de la chair, nous sommes nés par la volonté de Dieu. Donc il y a une deuxième naissance qui s'est opérée dans notre esprit. Maintenant, au niveau de notre âme, il y a notre propre travail à faire. Nous avons à faire des choix, nous avons à prendre des décisions et nous avons à choisir ce qui est bien, ce qui est bon. Et ça, c'est notre choix. Vous voyez, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a en nous beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes et que nous pouvons libérer à n'importe quelle occasion. Par exemple, si on vous blesse, si on vous parle mal, il y a tout de suite l'esprit de vengeance qui vient. Il y a tout de suite le désir de rendre l'appareil. C'est naturel dans notre, en nous. Hein, c'est notre nature humaine qui veut se défendre, qui veut se justifier. Et qui veut aussi se venger. Mais voyez, le Seigneur veut nous apprendre autre chose. Et c'est quelque chose qui vient de sa parole, parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin, que nous avons besoin d'apprendre, parce que cela est éducatif, ça va nous éduquer. Nous avons besoin d'apprendre à choisir de faire le bien. Et c'est pas quelque chose de simple, parce que souvent, vous voyez, nous nous justifions nous-mêmes, nous pensons que nous faisons bien. Mais lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous parler, nous éclairer, quand nous prenons la parole dans notre vie et que nous la laissons travailler en nous, nous réalisons qu'il y a beaucoup de domaines où nous avons besoin de changer. Il y a beaucoup de domaines où nous avons besoin de nous mettre vraiment devant Dieu et d'exposer notre âme. Parce que notre âme a besoin de la lumière de Dieu. La première étape, c'est le pardon. Vous savez, le pardon est curatif, c'est puissant le pardon. Parce que vous voyez, lorsqu'on a du mal à pardonner, eh bien, on retient les choses et la première victime, c'est nous-mêmes. Le pardon, lorsque vous vivez dans le pardon, vous avez toujours une paix à l'intérieur de vous et vous êtes tranquille à l'intérieur de vous. Vous avez une paix, vous avez une assurance et vous pouvez aimer tout le monde. Mais quand on est dans le non-pardon, il y a un danger, c'est les racines d'amertume. L'amertume est quelque chose qui s'enracine en vous et qui peut vous infecter toute votre vie. J'ai connu des gens qui, après des années et des années de vie avec le Seigneur, avaient toujours de l'amertume pour une certaine blessure qui remontait à 20 ans et qui continuait de les infecter. Dieu ne veut pas qu'on soit dans ce domaine-là. Vous savez que ça produit des maladies. L'amertume, le ressentiment affaiblit nos corps, agit même sur nos défenses personnelles. Nous devons apprendre à vivre dans le pardon. Pour choisir de faire le bien, eh bien, il faut apprendre à pardonner, premièrement. Il faut apprendre à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est le christianisme. C'est la base du christianisme. De même que nous avons été pardonnés, nous avons besoin de pardonner. Et frères et sœurs, c'est souvent que nous devons pardonner. On a été pardonnés une fois pour toutes par la foi, c'est vrai, en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Mais dans la vie, il y a besoin de pardonner très souvent. Très souvent, nous sommes blessés. Très souvent, nous sommes déstabilisés. Très souvent, nous sommes déçus. Nous pouvons être trahis. La trahison est extrêmement douloureuse. Quand nous avons mis notre confiance dans une personne que nous aimons, qui nous trahit, on met du temps à nous relever parce que nos émotions sont blessées. Mais frères et sœurs, le pardon va guérir. Le pardon guérit. Le pardon guérit notre âme. Et à l'intérieur, dans notre pensée, eh bien la personne, une fois qu'on a pardonné, elle quitte notre pensée. Et ça, c'est important. Quelquefois, vous voyez, quand nous n'avons pas pardonné, vous pouvez vous rendre compte, si vous n'avez pas pardonné vraiment, du fait que vous retenez les personnes dans votre pensée. Vous continuez à vous rappeler ce qu'on vous a fait, ça revient, les souvenirs reviennent, c'est douloureux. Et vous voyez, nous devons apprendre à pardonner par la foi. Et lorsque les pensées, les souvenirs reviennent, disons non, 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 j'ai pardonné, je bénis cette personne. Vous savez, j'ai eu des ennemis, comme tout le monde dans ma vie, quand j'étais jeune chrétienne, j'ai eu des choses que je devais pardonner. Et quand le souvenir me revenait, quand les problèmes me revenaient, je disais « non, je n'en veux pas ». Je le disais à haute voix, de façon à ce que ça cesse. Et les pensées ont cessé petit à petit. Il y a des pardons qui sont plus difficiles à donner. Je sais par exemple, les personnes qui passent par le divorce notamment, sont extrêmement blessées et peuvent avoir des blessures si Dieu ne les guérit pas. Si elles ne viennent pas au Seigneur, elles peuvent être blessées pendant toute leur vie. J'ai connu des personnes blessées par leur divorce terriblement injuste et souffrant d'injustice. Mais vous voyez, à partir du moment où le pardon est donné, même s'il y a eu injustice, lorsque le pardon est donné, la guérison est libérée. Et la personne avec qui vous vivez, alors qu'elle est partie dans sa vie et qu'elle est peut-être à des kilomètres et ne pense même plus à vous, eh bien cette personne, elle sort de votre périmètre de pensée, elle sort de votre vie. Donc le pardon est une clé pour faire le bien. Quand nous avons du non-pardon dans notre vie, nous sommes, on peut dire, mélangés, ça nous est difficile. Et nous faisons du bien à ceux que nous aimons, à ceux que nous aimons pas, non. Mais vous voyez, faire le bien, c'est quelque chose qui est important, qui va nous libérer, qui va nous élever et qui va nous permettre de nous détacher un peu de nous-mêmes. Parce que vous voyez, nous sommes dans une société extrêmement égoïste, égocentrique. On est tellement tourné sur nous-mêmes. Alors, il faut savoir s'ouvrir aux autres. On ne peut pas vivre sans les autres. La solitude, vous voyez, le Seigneur, dès la Genèse, a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Ça ne veut pas dire qu'il faut se marier pour autant, non. Ça veut dire qu'on ne doit pas être seul, on ne peut pas vivre seul. Alors, on aime certains moments de solitude. Moi, j'aime beaucoup des moments de solitude, mais c'est des moments choisis, je ne me sens jamais seul. Mais vous voyez, ne soyez jamais seul. Faites-vous des amis, soyez avec vos amis, partagez avec vos amis, parce que la solitude est mauvaise. J'ai connu des personnes qui vivaient dans la solitude et qui étaient assujettis à des pensées de découragement, de dépression. Et je disais à ces personnes, ne reste pas seul, va vers d'autres personnes, rencontre tes voisins, ne reste pas seul. Parce que la solitude, lorsqu'elle est subie, est destructrice. Ça ouvre la porte à la dépression, à toutes sortes de pensées négatives, et même des personnes pensent au suicide. Donc voyez, il n'est pas bon d'être seul, mais il est bon d'être avec les autres. Or, dans notre société, il y a tellement d'occasions de faire le bien. Amen. Faire le bien. Déjà, nous sommes à la fête des mères. Donc, je pense aux mères qui ont une famille, qui ont des enfants. Écoutez, faire le bien, c'est quelque chose avec lequel nous devons nous lever le matin. Nous devons nous dire, qu'est-ce que je vais faire de bien dans cette journée? Comment est-ce que je vais agir? Est-ce que je vais laisser ma nature, quelquefois colérique, vindicative, s'exprimer? Ou est-ce que je vais choisir de faire le bien? Faire le bien demande de penser aux autres. Qu'est-ce que l'autre ressent? Qu'est-ce que l'autre? Ça peut être mon enfant, ça peut être mon mari, ça peut être ma femme, ça peut être ma mère, mon père, ma famille. Qu'est-ce qu'il ressent lorsque j'agis de telle et telle façon? Alors je vais changer. Je vais faire le bien. Si Jésus allait de lieu en lieu, partout, en faisant le bien, ça veut dire qu'il faisait des choses pratiques. Il pouvait apporter peut-être une tasse de café, je rigole, à quelqu'un. Ou aider quelqu'un à rentrer son bois, ou faire des choses pratiques. Vous savez, Jésus, c'était pas le Seigneur sur un estrade avec une grande robe et faisant des choses très importantes. Non, il était avec les gens, il était proche des gens, il était avec les prostituées, il était avec les gens de mauvaise vie, il mangeait avec eux. Le Seigneur est proche des gens, alléluia. Il a dit, je ne suis pas venu appeler à la conversion des bien portants, je suis venu pour les malades de la vie. Jésus est venu pour ceux qui ont un mal de vivre et pour leur donner une vie nouvelle. Alléluia. Donc, voyez, il faisait le bien, ça veut dire qu'il faisait des choses pratiques. Et nous, si vous voulez faire le bien, pensez aux choses pratiques. Pensez à faire des choses pratiques. Comment est-ce que vous pouvez savoir, par exemple, si vous appréciez votre voisin? Moi, je n'ai pas de voisin où je vis. Mais j'aimerais bien des fois avoir des voisins pour exprimer ma gentillesse vis-à-vis d'eux. Ça peut être de leur amener un petit gâteau qu'on a fait, une petite tarte, une pizza, quelque chose, dire voilà, j'ai envie de vous faire plaisir. Vous savez, ça ouvre les cœurs. Ouvrons les cœurs des gens qui nous entourent, nos familles, nos parents, nos enfants. Non pas parce que c'est la fête des mères, mais ayons des attentions, faisons le bien. Vous savez, on a le choix, on est capable de faire le bien comme on est capable de faire le mal. Quand quelqu'un nous menace, ou quand on est au volant d'une voiture, il n'y a qu'à regarder nos réactions. Comment la nature reprend le dessus quand on nous fait une queue de poisson ou quelque chose. Hein? On est capable. Non, il faut changer. Il faut que nous apprenions à faire le bien dans notre vie. Et ça va être productrice de vie à l'intérieur de nous. Ça va nous apporter beaucoup. J'aimerais qu'on regarde dans les psaumes, psaume 37. Vous savez, c'est le psaume qu'on a reçu le 1er janvier. Est-ce que vous vous souvenez du 1er janvier? Prophétiquement, le Seigneur nous a donné ce psaume pour l'année, on peut dire. Et je l'ai relu et il allait très bien avec mon sujet, du verset 1 au verset 5. Le psaume 37 nous dit premièrement, ne t'irrite pas contre les méchants. Alors les méchants, vous voyez, c'est ceux qui ne plaisent pas à Dieu, qui font des choses qui sont pas bonnes. Hein. Et vous voyez, on peut être irrité. Ça veut dire on peut être en colère contre ceux qui réussissent et qui sont différents de nous. Nous, on a une vie droite, on a une vie honnête. On ne vole pas, on ne triche pas, on est honnête devant Dieu et devant les hommes. Et quelquefois, il arrive qu'il y ait des problèmes dans nos vies. Il arrive qu'on perde notre emploi, il arrive qu'il y ait des situations comme ça. Et on se dit, mais regarde celui-là, là, il a fait les 400 coups et lui, il prospère. Eh bien, le Seigneur dit, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal parce qu'ils prospèrent. Ne sois pas en colère après les gens. Ne soyez pas en colère après le gouvernement. Ne soyez pas en colère après les situations. Parce que ça vous irrite. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, vous perdez votre paix. Vous perdez votre temps. Et l'esprit de colère n'est pas très bon pour notre paix. Parce que l'esprit de colère bloque les choses. Et quand nous sommes en colère, nous sommes plus dans la paix. Alors vous voyez, la Bible nous dit, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, les méchants, hein. Et n'envie pas ceux qui font le mal, dans le sens où il y a des gens autour de vous qui réussissent et qui font les 400 coups. Eh bien, le Seigneur dit, ne sois pas irrité, tu ne dois pas leur en vouloir. Tu perds ton temps si tu as des mauvais sentiments contre eux, parce que ça, c'est pas faire le bien, c'est pas penser le bien. S'ils prospèrent, tant mieux, ça ne peut pas vous remettre en question. Vous avez la grâce de Dieu avec vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car un jour ils disparaîtront. C'est vrai, ils seront fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétriront comme le gazon. Confie-toi en l'Éternel, vis ta vie avec Dieu et pratique le bien. Vous voyez que partout dans la Bible, on nous dit de pratiquer le bien. Ça veut dire de faire du bien, premièrement dans nos familles, mais deuxièmement avec nos collègues de travail, troisièmement avec les gens que nous côtoyons, avec nos familles. Vous voyez, un chrétien doit être producteur de bien. Et il doit faire du bien, je veux dire, excusez-moi l'expression, mais il doit produire des bonnes choses auprès des gens, une bonne parole. Vous voyez, une parole et un sourire, l'appréciation que l'on peut avoir des autres peut faire tellement de bien. Il y a tellement de gens qui se sentent rejetés, qui se sentent abandonnés. Lorsque vous leur donnez une main d'association et que vous leur partagez un bonjour et que vous leur dites quelques mots, vous dites c'est rien. Mais oui, mais c'est rien pour vous, mais c'est peut-être beaucoup pour la personne. Vous savez, notre société n'honore plus les personnes âgées. Honorez les personnes âgées. Ne les traitez pas comme des mamies, comme j'ai vu qu'on les traitait quelquefois dans les hôpitaux, comme si c'était rien. Non, honorons les personnes âgées. La Bible nous dit d'honorer le cheveu blanc. Parce que ces gens ont élevé des enfants, ces gens ont travaillé, ces gens ont produit, ils ont été dans la vie active. Un jour, nous serons comme eux. Hein? Si on n'honore pas les personnes âgées, si on n'a pas du respect pour ce qu'ils ont accompli dans leur vie, eh bien notre société n'est pas équilibrée. Nous, chrétiens, nous devons avoir du respect. Respect pour nos parents qui nous ont élevés. Peut-être ils ne l'ont pas fait comme on aurait aimé, mais Dieu nous dit, hé, moi, je t'ai lavé, je t'ai guéri de tes blessures. Reste pas dans les blessures que tes parents t'ont faites. Avance, bénis tes parents, honore tes parents. Alléluia. Et puis, avance. Vous savez, tellement de gens, et moi, j'ai été un peu comme ça un certain temps, sont dans le problème. Mes parents m'ont fait ci, mes parents m'ont fait ça, j'ai pas reçu ci, j'ai pas eu ça. Hein. Vous allez chez les psychologues, et alors là, ils vous en disent, et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus voir vos parents. Parce que vous ne voyez que le côté négatif. Mais vos parents vous ont aimé, ils vous ont porté, ils vous ont nourri, ils vous ont donné du lait, de la nourriture, ils sont inquiétés pour vous, ils vous ont soigné quand vous étiez malade. Donc vous voyez, il faut savoir passer outre et pardonner et aller de l'avant. Si vos parents ont eu des faiblesses, n'ont pas été parfaits, et quel est le parent qui est parfait? On essaie de faire de notre mieux, et même en faisant notre mieux, on ne fait pas comme on devrait. Il y a toujours quelques problèmes. Hein. Mais si vous avez eu des parents qui ont vraiment failli, vous n'avez qu'à leur pardonner. Et vous pouvez continuer. Dieu veut qu'on pardonne, parce que le pardon, c'est une guérison. Vous voyez? Et comment est-ce que, vous voyez, les 10 commandements nous disent d'honorer notre père et notre mère? Et parce qu'il y a une promesse afin de vivre longtemps sur cette terre. Et lorsqu'on honore nos parents, on ne les juge pas. On dit, bon, il y a eu ça dans ma vie, d'accord. J'ai manqué de ci, j'ai manqué de cela, d'accord. Maintenant, le Seigneur a rempli ma vie. Je me suis confié en lui, il m'a guéri. Je pardonne, donc je bénis mes parents. Je bénis ma famille, je bénis ceux qui m'ont mis au monde, je bénis les gens qui ont pris soin de moi. Vous comprenez? C'est très important pour votre équilibre. Parce que vous voyez, souvent les familles sont coupées maintenant. Je vois que dans les familles, de moins en moins, même les gens se rattachent très peu à leurs parents, pas assez, et à leur famille. On ne peut pas, vous savez, une famille, c'est tellement précieux. Alors, il y a des bonnes choses qu'on reçoit de la famille, il y a des choses moins bonnes. Mais en tous les cas, il faut garder ce lien. C'est très important. Et donc, lorsque nous faisons le bien et que nous répondons par du bien, lorsque il y a des mauvaises choses qui vous sont communiquées, ou des paroles mauvaises, ou du rejet, ou de l'indifférence. Vous savez, des fois, dans des familles, il y a de la jalousie. Dans les familles, il y a des esprits de compétition. Et des fois, on honore plus celui qui a réussi que celui qui traîne un peu le pied derrière, qui est plus fragile et tout ça. Ça blesse. Mais vous voyez, quand on est chrétien, on doit passer outre. On pardonne et on avance. Et vous savez ce qu'on fait? On sème des bonnes choses. Lorsque vous faites le bien, ça veut dire lorsque vous pratiquez, ça veut dire pratiquer, vous voyez, c'est pas je fais une prière. Non, 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 c'est faire quelque chose. Lorsque je fais quelque chose pour les autres, cela m'enrichit. Cela m'apporte, cela m'élargit. Et cela plaît à Dieu. Beaucoup trop de chrétiens sont enfermés sur eux-mêmes et ne voient pas les autres autour d'eux. Nous avons besoin d'apprendre à pratiquer le bien, à choisir le bien. Continuons le psaume 37 qui dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Hein » Dans une autre traduction, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. » Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez, je regrette, mais cela, toutes ces bénédictions sont en fonction d'une condition. Pratique le bien. Et le pays pour demeure. Installe-toi là où tu vis. Bénis le lieu où tu vis. Vous voyez? Comment est-ce que Israël a gardé ses principes et a gardé tout ce qu'ils avaient quand ils étaient dans les pays, lorsqu'ils partaient dans les pays où ils étaient rejetés, eh bien, ils bénissaient le pays. Ils étaient souvent une bénédiction pour le pays avant qu'on les persécute. Ils produisaient des bonnes choses. Ils avaient un contact avec la société. Ils faisaient du commerce, ils étaient dans la société. Parce que Dieu leur a dit, tu bénis le pays étranger dans lequel tu es. Et Dieu nous appelle à bénir autour de nous, à avoir le pays pour demeure. Lorsqu'on est dans un pays, moi je suis citoyenne du ciel, mais Dieu m'a placée dans ce pays. Ça m'est égal, il aurait pu me mettre en Chine, en Afrique, en Inde. Je ne me sens pas, je me sens, vous voyez. Mais je suis là, et donc mon appel en tant que chrétienne, c'est de bénir le pays dans lequel je suis. Quelle que soit la politique et les problèmes, je bénis. Et vous voyez, la bénédiction que les chrétiens libèrent dans ce pays est très, très importante. Si nous ne prions pas pour notre pays, je vais vous dire, les conséquences peuvent être dramatiques. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le gouvernement. Nous avons besoin de bénir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, « Et le pays pour pâture, installe-toi dans le pays. Libère ton potentiel dans le pays. Prospère dans le pays. Fais des affaires dans le pays. Et le sens de la prospérité. » Parce que lorsque tu fais le bien, Dieu va te rendre, il va agir à ton avis. Il va te libérer une grande bénédiction sur ta vie financière, professionnelle. Professionnelle, car Dieu veut que nous prospérions. Alléluia. Tandis que notre âme prospère, la prospérité fait partie de la bénédiction de Dieu. Mais voyez, il faut changer notre mental. Si nous faisons du bien aux uns et que dans l'autre nous nous vengeons, la bénédiction de Dieu ne descendra pas sur nos vies. Dieu nous appelle à faire le bien, même à nos ennemis, à avoir une bonne attitude, à n'avoir d'ennemis, de personne, à ne nous faire aucun ennemi. Les gens peuvent être nos ennemis, c'est-à-dire les gens peuvent ne pas nous aimer, mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous bénissons, nous avançons avec la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ça vous aide le verset 37 ? Alléluia. Donc c'est important de comprendre que lorsque nous bénissons, nous faisons le bien, également nous apprenons à nous discipliner. Nous pensons aux autres, au lieu de penser tout le temps à nous. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que j'ai pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez, nous pensons aux autres. Et lorsque nous pensons aux autres, je vais vous dire, ça libère l'onction de Dieu sur notre vie qui va de l'avant. Donc regardons encore dans Acte 20, 35, je vous donne la référence, mais je vais vous le lire. Comment délaisser notre vie égoïste ? Alléluia, nous devons apprendre à nous donner. Il est dit dans Acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Lorsque nous donnons, lorsque nous donnons quelque chose, je vais vous dire, il y a du bonheur dans votre vie. Il y a du bonheur dans votre vie. Vous êtes heureux. Est-ce que vous avez expérimenté cela ? Quand vous avez fait quelque chose de vous-même, vous êtes allé voir quelqu'un, vous avez donné quelque chose, qu'est-ce qu'il y a comme satisfaction à l'intérieur de vous ? Il y a une grande satisfaction de faire le bien. Il faut que nous, chrétiens, nous apprenions à faire le bien, même à ceux qui ne nous aiment pas, frères et sœurs. Même à ceux qui ne nous aiment pas, parce que c'est ça l'évangile. Si nous faisons le bien à ceux qui nous aiment, quelle récompense avons-nous ? Mais quand nous apprenons à donner, à ouvrir nos cœurs à ceux qui nous rejettent, je vais vous dire, il y a une grande bénédiction. Je connais l'histoire d'une femme qui malheureusement a été violée par son père pendant des années. Et le Seigneur l'a relevée, ça a été long. Elle a été beaucoup blessée, elle a refait sa vie et elle a prospéré. Elle a eu vraiment une vie prospère. Elle est devenue, avec son mari, vraiment des gens riches, mais ils sont restés des chrétiens authentiques. Et à un moment donné de sa vie, le Seigneur lui a dit, maintenant il faut que tu prennes soin de ton père. Elle était âgée, elle ne le voyait pas. Seigneur, comment vais-je faire ? C'est impossible, je ne peux pas le voir. Premièrement, tu dois lui pardonner, tu dois aller te réconcilier avec lui. Et tu dois, il est dans la pauvreté, tu dois t'occuper de lui. Et cette femme dit, j'avais aucun sentiment dans mon cœur, j'avais du rejet, je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai dit, je vais faire ce qui est bien, parce que si Dieu m'a parlé, je vais pardonner. Et elle a acheté une maison à ses parents, et elle les a installés, sans qu'elle en ait envie. Vous comprenez ? Quelquefois faire le bien, c'est faire quelque chose malgré nous, parce qu'on sent qu'on doit le faire, mais on n'a pas envie. Eh bien, cette femme dit, vous savez, à partir du moment où j'ai fait cela, j'ai pu conduire mes parents au Seigneur et j'ai eu la satisfaction d'avoir fait ce que Dieu m'a demandé. Et c'était dur. Quelquefois, c'est dur de bénir certaines personnes. Quelquefois, c'est dur de tendre la main à des bourreaux, quelquefois. Hein ? On n'est pas dans une situation, mais il y a des pays où il faut pardonner à des bourreaux. C'est très dur, frères et sœurs, mais nous pouvons le faire parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous avons en nous cette capacité de faire le bien, même à nos ennemis. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Bénissez et ne maudissez pas. Celui qui maudit, il se maudit lui-même, parce que la malédiction revient sur soi. Parce que ce qu'on sème, on le récolte. Dieu dit qu'il n'y ait pas une malédiction qui sorte de votre bouche. Bénissez. Dans la société dans laquelle nous sommes, bénissons. Soyons attentifs aux autres. Je vous parle de cela parce que maintenant, je voudrais vous parler d'une femme qui a eu énormément de sagesse. Il s'agit d'Abigaël dans la Bible. Hein ? Et on va la lire parce qu'on va faire un peu son portrait. On va lire le portrait de cette femme. Vous le trouvez dans les rois. Hein ? Un roi. Je crois que c'est un roi 18. Je n'ai même pas pris mon texte. Oui, 1 Samuel 25. Nous avons là une situation, nous avons là un homme mauvais, méchant, Et nous avons là une femme sage. Et pourtant, ils sont mariés tous les deux. C'est pour vous dire que nous sommes responsables personnellement de notre attitude. Lorsque nous sommes mariés, nous sommes un, c'est vrai, en communion, mais nous sommes responsables de notre vie spirituelle. C'est pas notre mari qui est responsable de notre vie spirituelle, ni notre épouse. Non, nous sommes personnellement responsables de nous-mêmes. Vous voyez ? C'est pas moi qui suis responsable pour Bernard et c'est pas Bernard qui est responsable pour moi. Nous sommes responsables devant Dieu pour nous-mêmes. Et cette femme, vous voyez, dans la situation dans laquelle elle se trouvait, elle a su garder ce qu'elle avait en elle. Elle a su vivre en accord avec les principes de Dieu. Elle a su faire le bien alors qu'elle vivait avec un homme méchant. Un homme méchant. Regardez 1 Samuel 25. Je vais prendre à partir du verset 2, et je vais résumer parce que c'est un texte, je vous encourage à le lire, mais je vais le résumer. Donc c'était à Mahon, il y avait un homme fort riche qui possédait beaucoup de biens à Carmel, et il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente des brebis. Donc vous voyez, quand il y avait la tente, tous les bergers venaient, il y avait une grande fête, il y avait beaucoup de nourriture. C'est un petit peu comme les vendanges en France, si vous voulez, il y a une époque, quand il y avait les vendanges, tous les agriculteurs se réunissaient dans une grande ferme et ils vendangeaient, ils faisaient des fêtes et des fêtes et des fêtes. Hein? Il y avait beaucoup de nourriture, etc. Donc c'est ce qui se passe là. Et donc il y avait là David. Vous savez que David, le roi David était en fuite. Parce que Saül voulait le tuer, et Saül était jaloux de lui, et donc il était là avec tous ses hommes, plusieurs centaines d'hommes, et il avait faim, il avait soif, il avait des besoins pour sa troupe qui était avec lui. Alors, il nous est dit au verset 3 que le nom de cet homme s'appelait Nabal, et sa femme Abigaël. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Je crois que c'est pour nous les femmes. Soyons des femmes de bon sens. Ça veut dire ayons un sens pratique, une intelligence ouverte. Vous savez, on ne peut pas mener une vie saine si on n'a pas un monde à l'intérieur, si notre vie intérieure n'est pas saine. Si dans nos pensées, si dans nos sentiments nous sommes blessés, nous ne pouvons pas avoir une vie saine. Vous me suivez ? C'est impossible. Quand on est blessé, on a du mal. Dieu veut nous guérir pour que nous ayons une vie saine. Une vie juste, une vie droite. Et donc cette femme, vous voyez, elle était pleine de bon sens. Et c'est un peu ce que nous avons, nous les femmes. Nous avons du bon sens dans la vie. Il nous en faut. Nous ne voulons pas être des femmes qui ne comprenons pas les choses. Nous sommes pratiques, nous sommes près des choses. Quand quelqu'un a mal à la tête, et ben tout de suite on va chercher un cachet d'aspirine. Hein, on est pratique. On sait et on est efficace. On aime que les choses soient faites, n'est-ce pas vrai? Eh bien, cette femme, elle avait beaucoup de bon sens. Elle s'appelait Abigaël et son mari était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. C'est pas Caleb de Josué, hein, c'est un autre Caleb. Et donc, David était là et il était avec ses bergers dans le désert. Et ils avaient faim et soif, ils avaient des besoins et ils ne voulaient pas se servir. David était un homme de Dieu, vraiment. Et donc, il a dit, il a appelé 10 jeunes gens de son équipe, il a dit, écoutez, montez donc chez Nabal et dites-lui, voilà, nous sommes avec tes bergers, est-ce que tu peux nous donner de la nourriture? Mon équipe, mes troupes ont faim, et est-ce que tu peux nous donner de la nourriture? Voyez? Et ils ont été très mal reçus par Nabal. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que cet homme, là, de quel droit? Il vient de nous demander quelque chose, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a rejeté les serviteurs. Et David était humilié parce que qu'est-ce qu'il avait fait, David? Pendant qu'il y avait tous les bergers qui étaient réunis, David protégeait les bergers. Il les protégeait, il prenait soin d'eux. Alors il a dit, bon, parce que David était un homme de guerre, hein, n'oubliez pas. Il a dit, bon, allez, on monte et moi, toute la maison de Nabal, je vais la tuer. Je vais tous les tuer parce qu'ils me rendent le mal pour le bien. Vous comprenez? Et il monte avec son armée. Pendant ce temps, il y a un serviteur de Nabal qui sait ce qui s'est passé, qui monte vite voir Abigaël et qui lui dit, il va se passer quelque chose de terrible, il faut que vous fassiez quelque chose parce que notre maître, Nabal, a vraiment été méchant. Il a répondu par le mal, tout le bien que David a fait à nos bergers et il vient pour détruire toute sa maison. Et cette femme, Abigaël, a dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, elle a appelé ses serviteurs sans en parler à son mari, et elle a pris des mulets, et elle a rempli les mulets de nourriture, de fruits frais, de tas de choses, de pain, et elle a dit « Descendez devant moi, et moi je vais descendre et je vais demander la grâce à David. » Vous voyez, cette femme, elle connaissait David. Parce que David, vous voyez, il avait tué Goliath et sa renommée s'était répandue dans tout le pays. Nabal ne pouvait pas ne pas le connaître. Tout le monde connaissait David. Tout le monde savait ce qui se passait au niveau de Saül, le roi, et de David, qui devait être roi. Donc, elle savait, cette femme. Et elle a usé de sagesse, elle a fait le bien. Et elle a envoyé les ânes, les mulets avec des victuailles sur le chemin de David qui montait pour tuer toute la maison de Nabal. Et cette femme a demandé la grâce. Et elle a reçu la grâce. Ça, c'est de la sagesse. Elle a arrêté la colère de David et même son envie de meurtre simplement en donnant ce dont il avait besoin. Et vous lirez le texte, c'est une grande victoire. Lorsque vous pratiquez le bien, lorsque vous avez des ennemis et que vous leur faites quelque chose de bon pour eux, ça désamorce la colère, ça désamorce la méchanceté. Ça désamorce les choses. C'est un principe divin qui est très puissant. Et ce qui est extraordinaire avec Abigaël, c'est qu'elle avait l'esprit de Dieu. Elle connaissait David et elle s'est mise à prophétiser. Je vous ai dit combien c'est important. Vous avez l'esprit de Dieu. Comment vous pouvez prophétiser dans votre vie? Comment vous pouvez appeler les bonnes choses dans votre vie? Prophétiser sur vos enfants, prophétiser sur vos familles. Libérez le bien dans votre vie. Vous savez, la parole, lorsqu'elle est libérée, elle apporte les bénédictions de Dieu. Et il est dit que lorsque nous faisons le bien, Dieu agit. Dieu agira. Dieu agira pour vous. Alléluia. Et regardez ce qu'elle a dit à David. Alors, attendez, je cherche le passage. Voilà. Donc Abigaël fait ce qu'elle a et elle arrive vers David et elle dit, verset 23, elle se jette à ses pieds, verset 24, et elle dit « À moi la faute, mon Seigneur ». Alors ça, il faut beaucoup d'humilité. Hein. C'est son mari qui a fait les bêtises. Hein. Et elle dit « À moi la faute, mon Seigneur, promets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » Et Nabal, ça veut dire être fou. Hein. Et la méchanceté est une folie. La méchanceté est une folie. La méchanceté n'a pas de limite. Quand vous voyez ce qui s'est passé il y a 60 ans, quand vous voyez les guerres actuelles dans les pays, vous dites jusqu'où la méchanceté peut aller. La méchanceté vient vraiment des ténèbres. Et dans notre cœur, nous ne pouvons pas abriter de la méchanceté. Parce que c'est une œuvre ténébreuse. La méchanceté produira des choses qui n'ont pas de limitation dans le mal. Et donc, nous devons nous poser des limites à nous-mêmes. Nous devons nous limiter. Nous devons dire non, je refuse de faire le mal. Je refuse de parler de mal. Je refuse de penser le mal. Je décide de penser le bien, de faire le bien, de bénir autour de moi et d'être une bénédiction. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes en Christ. Nous avons été bénis, nous pouvons bénir. Nous sommes appelés à donner. Frères et sœurs, ne retenez pas les gens dans votre cœur parce qu'ils vous ont fait une méchanceté ou qu'ils vous ont mal parlé ou ils vous ont offensé. Nous devons être plus forts que les offenses. Nous devons être plus forts que l'amour propre. Vous savez, l'orgueil, l'amour propre, cela fait que « Ouh, tu m'as mal parlé. Attends, je t'en veux, je t'en voudrai longtemps. » On ne peut pas faire ça, nous. Nous, on est chrétiens. On porte le beau nom de Christ. C'est un honneur. On ne peut pas agir comme cela, frères et sœurs. Je sais que vous avez des ennemis, vous en avez eu. Libérez le pardon et oubliez. Oubliez les offenses. Vous savez, la personne peut-être ne voulait même pas vous offenser. Quelquefois, on est offensé, mais la personne ne voulait peut-être même pas vous offenser. Et vous, vous êtes offensé. Oh, on m'a mal parlé à moi, comment c'est possible? Vous savez, il faut évacuer tout ça. La maturité spirituelle, c'est de ne pas tenir compte des offenses et de continuer d'avancer. Ça, c'est de la maturité. Quand on est sensible à la moindre parole, susceptible, comment est-ce qu'on peut être avec des gens susceptibles? On blesse toujours, on fait des erreurs, on n'est pas parfait, on peut faire une erreur. On peut dire une parole qui nous a dépassés, mais on ne doit pas accepter d'être blessé. Vous voyez? Non, je ne serai pas blessé. Non, je ne m'offusquerai pas. Non, je n'en voudrai pas à cette personne. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, je peux avoir une mauvaise parole. Moi aussi, je peux me tromper. Donc, je ne vais pas en vouloir. Vous me suivez, mes amis ? Cette femme est venue vers David. Elle a dit, pardonne-moi, Seigneur, c'est de ma faute. Elle couvre son mari, ce qui est bien. Cet homme est méchant, il s'est mal conduit, mais pardonne-moi. Voilà, je te donne cela. Et je te donne ce que tu as besoin. Je te donne à manger à toi et à ton armée. Mais regardez ce qu'elle va dire d'extraordinaire. Elle va dire au verset 26, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal, accepte ce présent, que ta servante t'apporte et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à ta suite. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. » Elle bénit David. Et elle dit, l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera point en toi. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites le bien ? Eh bien, vous avez la pensée du Seigneur. Vous savez, Nabal faisait le mal, et quand David est venu lui demander quelque chose, il a dit, mais tu es l'ennemi de Saül. Pourquoi est-ce que j'irai aider quelqu'un qui se rebelle contre son roi ? Vous voyez, quand on fait le mal, quand on projette des choses mauvaises dans notre cœur, on n'a plus la pensée de Dieu. Mais là, vous voyez, cette femme, elle a la pensée de Dieu, et elle prophétise des choses réelles sur David. Pourquoi ? Parce qu'elle veut faire le bien. Elle s'est gardée. Donc c'est un exemple pour nous de cette sagesse. Dans notre vie, libérons la sagesse. Voyons les situations autour de nous. Prenons nos enfants de la bonne façon, même s'ils sont rebelles. Prenons-les dans le sens qui va leur apporter quelque chose. Essayons de nous mettre à la place des autres. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire le bien. Qu'est-ce qu'elle pense ? Qu'est-ce qu'il pense ? Comment est-ce qu'il est chez lui ? Comment est-ce qu'elle vit ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle pleure ? Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce qu'il est abandonné ? Qu'est-ce qui se passe ? Pensons aux autres et mettons-nous un petit peu à leur place. Et vous savez, quelquefois, regardez, quand nous-mêmes on est abandonné ou rejeté, comment on se sent ? Comment on se sent malheureux ? Mais quand quelqu'un nous passe un petit coup de fil, quand quelqu'un vient nous voir, ça nous met un bon. Oh, ça m'a fait du bien. Ah ben, je me sens bien. Vous êtes d'accord ? Donnons autour de nous. Hein, je veux vous laisser ça dans votre cœur, frères et sœurs. Donnons. Donnons-nous premièrement. Apprenons à nous donner. Abigaël, elle a donné. Elle a eu le réflexe qu'il fallait. Je veux vous dire un mot sur la méchanceté. Quand nous répondons à la méchanceté par la méchanceté, ça nous produit en nous un désir de vengeance qui grandit. Et vous voyez, la Bible appelle la méchanceté, le méchant, un fou. Ça veut dire qu'il y a la folie qui s'attache à la méchanceté. La folie, c'est grave d'être fou. Perdre sa pensée. Mais Nabal, il était fou. Il a perdu sa pensée au point qu'il en est mort. Hein ? Le jugement de Dieu est descendu sur lui. Mais la méchanceté, c'est une folie. Être méchant avec les gens, c'est une folie. Changeons, frères et sœurs. Faites attention, les paroles tuent. Ayons de bonnes paroles. Faisons attention, les paroles tuent bien plus qu'une arme. Elles détruisent terriblement les gens. Et si on a été maltraité avec les paroles, on a tendance à maltraiter à notre compte aussi, à notre tour. Mais arrêtons cela. Je veux prier simplement et vous rappeler dans ce jour de fête des mères, ayez la sagesse d'Abigaël. Elle casse la méchanceté en agissant. Elle casse la colère, la vengeance en venant avec quelque chose de pratique. Vous voyez, elle a compris que ces gens avaient faim. A compris qu'ils avaient fait des bonnes choses autour de ces bergers-là. Ils avaient protégé des voleurs. Ils avaient gardé. Ils n'avaient rien pris des biens qu'ils avaient. Et il y avait de l'abondance dans ce moment de tonte des brebis-là. Tous les bergers de Nabal étaient riches. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Ils n'ont rien touché et ils ont gardé. Donc ils ont répondu par le bien. Et ils ont reçu le mal. Donc David était prêt à tuer toute la maison de Nabal. Abigaël est venue devant lui. Et elle a cassé sa vengeance, simplement en pourvoyant, en donnant. Amen. Frères et sœurs, dans notre vie, il y a beaucoup de domaines comme cela, où nous pouvons casser la méchanceté, casser, alléluia, tout ce qui peut venir contre nous. Amen. On va terminer là-dessus. Je résume. Alléluia. Rappelez-vous le psaume 37. Attachons-nous au bien, pratiquons le bien. Rappelez-vous dans Acte 10, Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Ça veut dire regarder Jésus comme, non pas mystiquement, parce que Jésus n'est pas mystique, non. Regardez-le dans ce qu'il faisait de pratique pour les gens. Je ne sais pas la société de l'époque, hein, comment ils vivaient, mais il y avait tellement de besoins, hein, parce que les gens, ils n'avaient pas tout le confort qu'on a. Donc Jésus a dû aider, il a dû faire des choses pratiques. Ça a émerveillé ses disciples. Et ils se sont dit donc, il peut nous donner des choses spirituelles extrêmement riches, et en même temps, il peut aider cette personne âgée, il peut ranger peut-être dans sa maison, ou mettre le bois dans sa cour, il peut faire des choses pratiques. Pensez à faire des choses pratiques. Le monde sera sauvé par la bonté. Hein? Je ne sais plus, c'est Bernard qui a, dans son livre, il a parlé d'un scientifique qui s'appelle Boris Cyrulnik. Cyrulnik, vous connaissez. Il a dit, Cyrulnik, voilà. Il a dit que le monde serait sauvé par la bonté. Si nous pouvons être bons les uns avec les autres, ça pourrait sauver le monde. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est une puissance d'être bon avec les gens. Vous voyez combien on est blessé quand dans la rue on vous insulte parce que vous êtes mal garé ou parce que vous conduisez d'une certaine façon. On est tout de suite blessé, ça fait mal. Vous remarquez, même si on ne connaît pas les gens. Mais la bonté. Il faut qu'on s'habille de bonté parce que ça ne nous est pas toujours naturel. Mais il faut aller vers la bonté. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. En cette occasion de fête des mères, Seigneur, nous voulons honorer toutes les mères, les mamans qui sont au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons prier tout spécialement pour elles, Seigneur, afin qu'elles soient sages et pleines de bon sens comme Abigaël, qu'elles aient des paroles de vie et des paroles de bénédiction pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs maris. Qu'elles soient capables, Seigneur, de gérer les situations avec bonté. Seigneur, que la colère, le ressentiment, les blessures ne règnent pas dans leur vie, mais qu'elles puissent être guéries, Seigneur, en pardonnant à tous ceux et celles qui les ont offensées, en pardonnant les paroles peut-être cruelles qu'elles ont reçues. Seigneur, nous prions pour cela, Seigneur. Envoie le baume de Galade sur les âmes blessées ce matin, Seigneur. Oh, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez la main sur votre cœur ce matin. Vous savez, rappelez-vous, nos émotions sont. Nous sommes fragiles à cause de nos émotions. Nous sommes des êtres très émotionnels. Et quand nous sommes blessés, ça a un effet sur tout le monde. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui sont blessés, rejetés, qui ont été maltraités par des paroles, par des actes aussi, abandonnés. Seigneur, je prie ce matin par ton esprit que tu libères cette onction, Seigneur, qui guérit ce matin. Que les cœurs soient restaurés, Seigneur, les âmes soient restaurées, Seigneur, avec la douceur du Saint-Esprit ce matin. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Alléluia. Tu restaures les âmes blessées. Tu es venu pour cela, Seigneur, afin que les âmes ne soient plus déchirées, mais qu'elles soient restaurées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux prier, alléluia, que tu donnes à chaque épouse, chaque femme, chaque mère, beaucoup de sagesse, Seigneur, pour élever leurs enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.